d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices, en direct de notre station, après plus de 2 mois de confinement. J'espère que vous allez bien et que vos proches aussi. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi d'Acier avec Ludo, Christophe, Gilles au micro et Claude à la technique. Ce soir, nous ferons un petit bilan du télétravail, nous parlerons de l'explosion du chômage, de la baisse du PIB et bien d'autres sujets alarmants mais réels. Salut Ludo.
Bonsoir.
Bonjour Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Alors Ludo, l'explosion du chômage a accéléré pendant la période du confinement apparemment.
Eh oui, sans surprise, puisqu'on a tous été un petit peu inactifs. Alors bien qu'une grande part ait été prise par le chômage partiel, il n'en demeure pas moins qu'un fort volant de ce qu'on appelle les précaires, ceux qui sont dans notre société triomphante du travail, ceux qui ont un CDD, des temps partiels, des petits bouts d'heures par-ci, par-là. Et bien ces gens-là, pendant le confinement, personne n'est venu les aider, personne n'est venu à leur secours. Il n'y a plus de travail. Et ils ne pouvaient pas être pris en charge par le travail à temps partiel. Et je crois même que dans certains cas, du fait de la réforme de 2019 du chômage, et bien je crains bien que certains n'aient même pas eu le droit à l'indemnisation. Toujours est-il que c'est ces gens-là qui sont les premières victimes en fait, du chômage total, qui a fait un bond de 22% hein, dans les statistiques au mois d'avril.
C'est beaucoup, c'est un cinquième ça presque.
Voilà, plus. Exactement, c'est une hausse sans précédent en fait, depuis 1996, c'est-à-dire date de la mise en place des statistiques. Et en fait, si on compte les 2 mois, c'est-à-dire celui du mois de mars, on atteint un peu plus d'1 million de personnes qui sont en catégorie A, c'est-à-dire qui sont sans aucune activité durant les 2 mois. Donc c'est, ben voilà, c'est bien plus que le pic qu'on avait atteint en 2015, hein, où les effets de la crise s'étaient fait sentir au maximum, et ça représente à peu près 4 500 000 personnes.
Voilà. C'est pas mal.
Donc voilà, donc c'est énorme, c'est énorme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qui est bon, alors ce qui est à la fois une bonne et une moins bonne nouvelle, c'est que en fait, le volume total de chômeurs n'a augmenté que de 200 000 personnes, si on prend toutes les catégories. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est tous les gens en précarité, en CDD, à temps partiel, tout ça, qui ont basculé d'une catégorie à une autre. Et ce que ça révèle, tout simplement, ce qu'on dit à ce micro depuis des années, c'est que le marché du travail se précarise depuis 10, 15, 20 ans,
oui.
Et que là, on voit pleinement les effets. Et donc le vrai problème en fait, c'est de savoir si un, il va y avoir une reprise, c'est-à-dire si ces gens vont retrouver du travail, et deux, si les choses vont s'arrêter là, puisque on pourrait craindre effectivement une crise économique qui suit, notamment une cascade de plans sociaux. Juste à noter une petite chose quand même, c'est que les hommes ont été plus touchés que les femmes.
Ah, d'accord.
Et pour une raison simple, c'est que certaines professions sont très féminisées, donc notamment toutes les professions utiles comme les caissières. voilà.
D'accord. Christophe, tu veux intervenir ?
Oui, c'est une des raisons pour laquelle Emmanuel Macron et son gouvernement ont donné d'un seul coup une aide d'urgence de 150 euros pour les ménages les plus précaires. Parce qu'en fait, quelque part, c'est une sorte de filet pour accepter le travail non déclaré. Et aussi toute cette précarité rampante. C'est, en fait, ça a été un levier d'argent. Hein,
pour 150 euros pour... bon, d'accord, sur moi, ça ne fait pas baiser quand même. Hein. Faut pas exagérer.
Mais pour éviter...
Il aurait mieux fait de revenir sur sa réforme, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur sa réforme de 2019, sur la réforme de l'indemnisation de 2019 pour donner un accès au droit à des gens qui n'avaient plus assez d'heures, à mon avis. Hein. Mais je suis d'accord que le travail informel, comme on appelle ça, pour dire poliment, pour dire le travail au noir, évidemment, c'était dans les quartiers populaires, ça a été vraiment très très difficile. La période de confinement a été très très dure.
Non, mais c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un effet pervers qui est redoutable, parce que derrière ces 150 euros, on va entendre un discours de justification néolibérale. Il y a eu un filet de sécurité qui a été mis en place, alors que c'est rien du tout, sachant que ce sera la collectivité, c'est-à-dire nous tous, qui allons payer ce filet de sécurité de fait.
Oui, bien sûr.
Ce qui est inadmissible dans cette histoire de chômage, c'est qu'il y a eu effectivement une intervention de l'État qui va faire exploser la dette publique d'environ 10% minimum. Donc on va passer à 112% de la richesse nationale produite tous les ans en termes de dette. Ce qui n'est pas dit, c'est que c'est nous qui allons payer ça, alors que Emmanuel Macron s'est refusé à réintroduire l'ISF, à réintroduire un impôt comme la taxe Tobin sur les transactions financières.
Absolument.
À réintroduire ce qu'avait demandé notamment Vincent Lindon.
L'ISF ?
Non. À réintroduire ce qu'avait demandé ce que demandent notamment Vincent Lindon et un certain nombre d'artistes, de célébrités, etc. Le fameux impôt Jean Valjean, c'est-à-dire une dotation exceptionnelle contre ce déficit-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique ultralibérale. C'est la stratégie du choc de Mélanie Klein. Voilà.
D'accord. Mais tout ça, pour tout ça, ça veut dire que la dette de l'UNEDIC va s'alourdir pour le coup, Ludo.
Et oui, et pas seulement. Alors oui, la dette future, ça c'est sûr, mais elle s'est déjà alourdie du fait que, en fait, l'UNEDIC cotise à un tiers, enfin contribue à un tiers du chômage à temps partiel, qui était le dispositif mise en place pour protéger les salariés, ce qui a alourdi sa dette de 47 milliards d'euros, soit 10 milliards de plus qu'à la fin décembre 2019. Alors du coup, c'était la question, que faire avec une telle dette, puisque, comme on l'a bien compris, les mois à venir étant difficiles, toute la question est de savoir comment on va indemniser les chômeurs, est-ce qu'on peut mieux les indemniser ? Alors, des syndicalistes qui participent à la gestion UNEDIC font remarquer que, certes, la dette est importante, mais qu'en réalité, elle est moins importante que s'il n'y avait pas eu le dispositif du chômage à temps partiel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le dispositif du chômage à temps partiel, c'est plus de gens qui auraient fait valoir leurs droits. Et donc là, l'UNEDIC aurait cotisé plein pot, et donc on se serait avec une dette beaucoup plus lourde. Donc ça reste raisonnable par rapport à ce que ça pourrait être. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que, il faut être honnête, hein, les cotisations chômage non seulement n'ont pas augmenté, mais elles ont même été en partie supprimées par le gouvernement Macron, ce qui est évidemment pas très bon pour les comptes de l'UNEDIC. Et donc il faudrait effectivement organiser une conférence sur le financement de l'assurance chômage. C'est Denis Gravoux, de la société qui les stream. Car le trou de l'UNEDIC est essentiellement, avant la crise, était essentiellement le fait de l'activité partielle. Et aucune ressource spécifique n'est à l'heure actuelle prévue pour le chômage à temps partiel. Le travail à temps partiel, en fait, est légitime pour limiter la progression du nombre de demandeurs d'emploi, mais il faut aussi, dans ce cas-là, envisager d'autres sources de revenus, en fait, Voilà, donc du coup, le niveau atteint par la dette pose des questions politiques majeures quant à son portage, donc déclare Patrick Ferron, le vice-président qui est de la CFDT. Mais il ne doit en aucun cas être utilisé comme un argument pour justifier une baisse des droits des centaines de milliers de demandeurs d'emploi supplémentaires qui commencent à s'inscrire à Pôle emploi. À ses yeux, des discussions avec le gouvernement doivent s'ouvrir rapidement afin de traiter ces problématiques. D'autant que certains salariés ont dénoncé des fraudes au chômage partiel du fait que les employeurs ont continué à faire travailler leurs salariés chez eux. Et donc c'est en cours de discussion, savoir quel sort va être réservé aux chômeurs à venir, et quelle sera la destinée de la réforme. Mais peut-être qu'aussi il faudrait tout remettre à plat et faire une conférence sur le financement.
D'autant plus que la Banque centrale va prêter aux États des centaines de milliards pour éventuellement, pour subvenir à cette crise. Mais ça veut dire qu'on est encore dans ce monde libéral de consumérisme. Enfin, bref. Donc, je vous propose d'écouter maintenant Philippe Aguillon, qui est économiste, qui était économiste auprès de Macron, qui nous parle de l'assurance chômage et de la retraite.
Mais par exemple, une chose qui ne peut plus continuer comme avant. Je vous donne une feuille de route et je me rends compte au bout d'une semaine que vous êtes des idiots et donc c'est moi qui agis par ordonnance. Ça, il faut que ça cesse, quoi. Ils ont fait ça pour l'assurance chômage et pour les retraites, ils voulaient le faire. Mmh. Ça, ça doit cesser, quoi. On ne peut pas établir la confiance. Et je crois qu'un des grands problèmes...
Si vous n'êtes pas content, si
eh ben
vous
voilà,
pas
voilà,
solution.
Je vous donne une feuille de route infaisable, évidemment. Hein. La feuille des retraites est absolument infaisable. Bon. Et je vous dis, vous êtes des abrutis. Au bout de quelques semaines, c'est moi qui agis par ordonnance. Ça, je pense que c'est plus possible.
Pour l'assurance chômage, ce n'était pas quelques semaines. Ça a duré
longtemps.
Mais
enfin, la feuille de route était compliquée, quand même. La feuille de route était compliquée. Et pour les retraites, elle était vraiment... Carrément, moi, ça, j'ai regardé très. Pour les retraites, c'était vraiment la quadrature du cercle.
Ça veut dire qu'il faut abroger, la
réforme. C'est une autre manière.
Je pense. Moi, je
l'abrogerai et je redémarrerai à zéro pour l'assurance chômage et pour les retraites. Absolument.
Tout.
Sur ces deux-là, je redémarrerai à zéro.
Il n'y a rien à garder.
On peut peut-être à l'arrivée garder des choses, mais je repartirai à zéro sur ces deux réformes.
Ouais. D'ici à 2022.
Ouais, absolument. Je suspendrai pour deux. Ce que je ferai d'ici 2022, c'est l'industrialisation. C'est donc tous les plans d'industriels, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'automobile, mais je généralise. La réforme de l'hôpital, une vraie politique industrielle, et les réformes dont j'ai parlé, notamment le dialogue social, etc. C'est ça que je ferai moi d'ici 2022.
La retraite à points, on l'oublie pour l'instant.
Pour le moment, en tout cas...
Vous étiez partisan de la retraite à points.
Oui, mais ce n'était pas du tout comme elle a été faite, parce qu'il était question dans le programme de faire une réforme purement systémique et pas paramétrique. Et puis elle a été totalement dévoyée. Elle est allée complètement vers le paramétrique.
Pour des raisons financières.
Voilà. Ce n'était pas le programme. Voilà. On s'est écarté du programme.
Des faillites, des suppressions d'emplois, l'entrée en pauvreté que vous redoutez pour des centaines de Français, des milliers de Français, des jeunes qui ne vont pas trouver de travail, 800 000 jeunes qui doivent arriver sur le marché à l'emploi à la rentrée, même si cet après-midi l'aide à l'embauche d'apprentis a été
C'est pour ça que je suis pour ce revenu d'impôt négatif, parce qu'il faut que j'ai les moyens, il faut que ces gens aient une dignité, parce que je pense que si on n'a pas de dignité, on peut pas se former et on peut pas chercher du travail correctement.
Mais on peut mettre en place un impôt négatif d'ici à l'été, d'ici à la rentrée.
Ça, il faut regarder comment on fait et comment on met ça. Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais je pense qu'il faut engager le plus vite possible une réforme de ce genre.
Le plus vite possible pour éviter justement l'entrée en pauvreté de trop nombreux Français et une rentrée sociale avec le retour des colères.
Voilà, c'est pour ça que je pense que, et sur ce front, et sur celui de la démocratie sociale, est montré qu'on a vraiment compris qu'on ne va plus faire comme l'assurance chômage et les retraites. Qu'on va partir, qu'il y aura un vrai acte 2. Finalement, après les Gilets jaunes, on attendait un acte 2, et il n'est pas venu. Et bien voilà, peut-être que maintenant, c'est le moment d'engager un acte 2.
J'espère sincèrement qu'Emmanuel Macron regarde C'est à vous ce soir, parce que des messages lui ont été directement adressés par Philippe Aguillon, l'un de ses anciens conseillers, n'est-ce pas?
Et enfin, avec d'autres.
Avec d'autres. Voilà. On recevait notamment M. Pisani-Ferry il y a quelques jours, qui était également ici.
Même club.
Même club.
Et même liberté retrouvée, si j'ai bien compris.
Absolument.
Merci Philippe Aguillon. Vous restez avec nous. On va continuer à commenter l'actualité. C'est
d'accord.
L'heure des 5 sur 5
très
de Maxime Switek.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, avec Ludo, Christophe et Gilles au micro, Claude à la technique. On va reprendre cette émission avec Christophe. Apparemment, il y a un abaissement du PIB en France. Qu'est-ce qui se passe exactement?
On va avoir, c'est promis par la BCE, malgré un plan d'investissement massif de 750 milliards d'euros. La France va rentrer dans une récession très importante, puisqu'on aura à peu près 10% du PIB en moins par rapport à l'année dernière, sachant que le taux moyen pour la zone euro, il est de 8,7%. Donc, on aurait peut-être, notamment au niveau 500 millions de personnes dans la pauvreté, au niveau mondial. C'est une analyse de l'ONG Oxfam, avec un chômage qui bondirait de 12,2% en moyenne à 18%, ce qui est énorme. Hein. En France, pour bien vous situer, on a eu un effondrement du PIB d'à peu près 20% au deuxième trimestre. C'est-à-dire qu'on table sur une récession qui sera encore plus importante qu'en 1948, au moment où on sortait de la guerre.
20% du PIB.
20% du PIB, ouais. Alors, il y a un certain nombre, il faut savoir qu'en parallèle à ça, donc là je vais énumérer toutes les mauvaises nouvelles, il y a, après l'Argentine et le Liban, ce sont deux pays qui, sont du fait de cette récession, se sont déclarés en défaut de paiement.
En faillite, hein, carrément, on peut dire. Carrément,
En Afrique du Sud, la pandémie a accru la misère, sachant que c'est un des pays les plus inégalitaires du monde, entre autres. il y a un risque majeur de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'après le... Parce que nous, on est déconfinés, mais il faut savoir que dans d'autres parties du monde, on n'en est pas encore là, pas en Afrique, par exemple.
Donc, mais pas au Brésil.
Mais pas au Brésil. Oui, bah,
donc, vous n'êtes pas confinés.
En fait, le coronavirus, il fait des ravages dans les systèmes économiques, dans les systèmes sociaux, sanitaires du monde entier, de fait. Et il y a un risque majeur d'explosion de différents systèmes. Alors, il faut savoir que dans d'autres pays comme l'Afrique, malgré le manque de moyens et d'infrastructures hein, sur le continent africain, la notion de soins intensifs, elle est parfois inexistante dans certaines zones rurales
bien sûr, bien sûr.
De ces pays, etc. Donc là, la conséquence de ça, si tu veux, c'est qu'il y a eu un sondage récent qui a été fait auprès de 3300 soignants belges, et la Belgique, c'est quand même un pays développé. Et il y en a certains qui, après cette vague de travail très intensif, il y en a près de 15% d'entre eux qui songent à carrément quitter la profession. Tellement ça a été une pandémie très importante et puis des conséquences sur les systèmes sociaux et économiques. Voilà, donc aujourd'hui, la question qui se pose par rapport à tout ce paiement de dette, parce qu'on on a enrichi les marchés financiers en contractant de la dette sur des eurobonds, même si on veut mettre en place des coronavirus bonds, c'est-à-dire en gros des dettes communes au niveau européen, ce n'est pas encore acté parce qu'il y a des pays comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne qui ne le veulent pas.
La Suède aussi, je crois.
La Suède aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est explosif. Et comment on gère la dette par rapport à ça ?
Oui. Je crois que Mélenchon a une proposition.
Oui, mais avant d'écouter Mélenchon, on va peut-être s'écouter une petite chanson, si c'est possible.
Renaud Villevord, les chantiers navals du Havre de la Ciotat, Adelsofen, Célatex, Michelin, Epeda, Ludanone.
Mon enfant a compris mieux que moi le bonheur,
le bonheur
de faire péter tout ça.
Et oui, c'était une superbe chanson de Joli Môme, vous l'avez certainement reconnue. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir, c'est une émission sur le chômage et la précarité avec Ludo, Christophe et Gilles au micro, Claude à la technique. Alors dis-moi Ludo, Mélenchon a fait un grand discours à l'Assemblée nationale. De quoi il s'agissait exactement ?
Eh bien, il s'agissait de ce dont parlait Christophe tout à l'heure.
D'accord.
C'est-à-dire de la dette, en fait, générée par la crise du coronavirus et de la façon de traiter la dette et dont la Banque centrale traite actuellement la dette. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un petit peu mieux ?
Peut-être donc, de l'annuler alors, peut-être, non ?
Exactement. Bravo, t'as lu dans sa pensée.
Alors on va l'écouter.
Voilà.
La résolution que je vous présente a pour objet de faire que l'Assemblée nationale de notre République se prononce pour une mesure de salut public qui, si elle était adoptée par cette Assemblée, évidemment, ne viendrait pas en application immédiate parce qu'il faudrait en convaincre nos partenaires et prendre des initiatives diplomatiques, mais qui, du moins, donnerait la force aux représentants français d'agir au niveau européen pour obtenir cette mesure, à savoir l'annulation de la dette publique des États européens. Je sais ce que ce mot d'annulation peut susciter de surprises et d'émoi. Bon, j'appellerai volontiers ça, si ça vous arrange, dette perpétuelle ou dette pour toujours sans intérêt, peu importe. Et puis je comprends qu'on ne saisit pas d'entrée de jeu, que cette annulation ne spoliera personne et ne ruinera personne, puisqu'il s'agit des titres des dettes des États qui sont dans le bilan actuel de la Banque Centrale Européenne. Beaucoup d'entre vous apprendront avec une certaine surprise, j'en suis certain, que 45% du bilan de la Banque Centrale Européenne est constitué de dettes des États membres de l'Union européenne. Ainsi, cette banque centrale dont le statut a disposé qu'elle était indépendante, personnellement j'ai voté contre ce statut, n'a pas le droit de prêter aux États, mais elle a le droit d'encaisser les intérêts que les États payent pour leurs dettes, car entre-temps, elle a racheté les titres des dettes souveraines qui se trouvaient dans les banques privées pour donner à ces banques privées des liquidités, des certitudes qu'elles n'avaient plus avec ces titres de dette. 45%. Nous autres Français, 18% de notre dette souveraine se trouve dans les caisses de la Banque Centrale Européenne. Les Allemands, 20%, etc. Pourquoi prendre une telle mesure ? Parce que nous avons impérativement besoin que l'État retrouve sa capacité d'intervention économique au plus haut niveau possible. Car si la joie du déconfinement, bien naturelle, peut donner ici et là le sentiment que la page est tournée, ce serait une illusion pour nous d'y adhérer. La crise ne fait que commencer, hélas pour nous tous. Fort heureusement, il semble que le virus soit saisonnier et que du moins, nous aurons moins de risques de contamination. Peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas d'autorité sur ce sujet. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'arrive vers nous un véritable mascaret qui résulte du croisement du calendrier avec la situation des personnes. Au point que, pour une fois, je vais citer à cette tribune le président du MEDEF, qui n'est pas une de mes références habituelles, mais il se trouve que cette fois-ci, je suis bien d'accord avec lui. Il dit « On peut craindre que la crise économique ne se transforme en crise sociale, puis en crise démocratique. On n'en est pas encore là. C'est, dit-il, grâce aux investissements de l'État qu'on va faire repartir l'économie. » Le président du MEDEF ne vous dit pas que c'est le marché qui va relancer, faire repartir l'économie, il vous dit que c'est l'État. Encore faut-il que l'État puisse le faire. Et c'est pourquoi il faut qu'il cesse d'être étouffé par cette dette qui, aujourd'hui, limite ses possibilités d'intervention. Que va-t-il se passer ? Je demande qu'on prenne la mesure de l'événement inouï, unique, jamais connu. En 2008, nous avons eu un choc financier gigantesque et nous avons eu un recul de 3% de la richesse nationale. Pour récupérer ces 3%, il a fallu 4 ans. Nous en sommes là à 11% et personne ne dit que le chiffre est définitif. Ce qui signifierait que les 12 prochaines années, à la même cadence que la fois précédente, et à supposer qu'elle se déroule de la même manière, serait consacrée à faire ce rattrapage, c'est-à-dire que nous allons vivre dans le tohu-bohu de ce qui ne sera plus un chômage de masse, mais un chômage généralisé. Au demeurant, il est à peu près certain que la façon avec laquelle pourraient se disloquer, et se sont déjà disloquées les longues chaînes d'interdépendance économique de la production, se passe d'une autre manière parce que précisément elle a été atteinte dans sa substance et aujourd'hui il n'est de production qui ne soit globalisée. C'est au point que les Français ont découvert que même l'agriculture était globalisée et que sans le recours à ces longues chaînes, il n'y a pas de souveraineté alimentaire et que nous n'écartons pas le risque de famine dans un pays qui est pourtant un grand pays, une grande nation agricole comme la nôtre. Il n'est pas vrai, et je ne veux pas polémiquer sur ce point à cet instant, que le plan de relance prévu dans ce pays, ni celui qui a été annoncé par l'Europe, puisse être suffisant pour remettre en route la machine. Je vous demande de comparer simplement les quantités qu'ils mettent en mouvement l'un et l'autre. Pour ce qui concerne le plan européen, la masse dont il a été décidé représente 3,3% du PIB de l'Europe, pour un recul de 7,7 points de richesse. Quant à la France, ce qu'elle engage représente 2,5% de son PIB pour un recul de 11%. Ah, mais tous les pays ne procèdent pas de même. Et je voudrais maintenant me référer au ministre Le Maire. Vous voyez, aujourd'hui, je ne choisis mes citations. Il a dit en commission quelque chose avec quoi je suis bien d'accord en élément d'analyse. Il a dit « Si les pays ressortent du confinement économique dans des conditions trop déséquilibrées, la zone euro n'y résistera pas, ce qui pour lui est une catastrophe. Et il faut bien admettre que si la zone euro venait à s'effondrer du fait de ces écarts, ce serait un bienfait pour personne, car tout le monde doit toujours chercher à maîtriser les conditions économiques et personne n'a rien à gagner au désordre et au chaos économique. » Alors, observons que les États-Unis d'Amérique consacrent 10% du total de leur PIB à relancer leur économie. Mais surtout que la République fédérale d'Allemagne y consacre 20% et que par rapport au plan qui additionne les interventions de chacun des États européens pour produire l'intervention générale, 57% de ce qui a été décidé va et vient d'Allemagne. Tant et si bien que, inéluctablement, l'écart entre les deux économies devrait se creuser et qu'il ne peut être question de rester les bras ballants devant un tel déséquilibre. Tandis que toute la zone sud de l'Europe, où se produit l'essentiel de la richesse européenne, car s'il est vrai que l'Allemagne est la première puissance économique européenne, la deuxième, la troisième et la quatrième, c'est la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont ses concurrents dans maint domaine. On ne peut accepter que tout cela aille comme cela a l'air d'aller, c'est-à-dire comme une évidence. Ça n'en est pas une pour moi, et je crois que je ne suis pas le seul. Je ne vous parle même pas des efforts que l'État devrait faire s'il voulait que le déconfinement économique soit comme il devrait l'être, planifié en privilégiant plutôt certaines chaînes de production que d'autres. Et on me permettra de dire que beaucoup d'entre nous ne comprennent rien à l'idée de sauver l'industrie automobile en y mettant des milliards, ce dont nous voulons bien convenir, mais quand seulement 17% des véhicules qui se vendent en France sont produits en France, il est absolument certain que tout le reste est subvention pour des productions qui ne sont pas dans ce pays. Je ne le donne que comme exemple. Mais voici donc le cadre général. À partir de là, voyons comment il se télescope, mon Dieu, déjà 8 minutes, avec le calendrier. Au mois de juin, vous tombez sur le benchmarking trimestriel et semestriel. C'est là que les entreprises auront avec leurs banques les discussions qui auront lieu pendant l'été pour savoir comment seront reconduits les crédits ou pas. À la rentrée de septembre, vous aurez 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Au mois de décembre, arrivent à terme les emprunts qui ont été faits dans le cadre des plans de relance. Va donc se concentrer sur une période extrêmement étroite, un maximum de demandes et en même temps un minimum de moyens, car les familles seront confrontées à la rentrée scolaire, aux achats de carburant pour leur chauffage, etc., etc. C'est la raison pour laquelle il faut d'urgence prendre la grande mesure. Et nombreux sont ceux qui aujourd'hui en sont d'accord. N'est-ce pas étonnant que le banquier, l'ex-banquier central, M. Mario Draghi, soit lui aussi partisan de cette annulation de la dette ? Que le gouverneur de la Banque de France soit lui aussi d'accord, et même que M. Bayrou, qui est cher à quelques-uns d'entre vous et estimé par les autres, dise qu'il faut bloquer la dette de la France. Petite annulation, phase numéro 1. 18% de la dette des Français pourrait être immédiatement gelée et alors cela annulerait toute la dette de la phase Covid. Grande annulation, tout le reste de la dette continuerait à être acheté par la Banque Centrale Européenne aux banques privées, comme c'est le cas aujourd'hui, et gelé à mesure. Voilà comment,
puisqu'il va falloir conclure, chers collègues.
Cette mesure n'est de spoliation pour personne. Elle ne crée pas d'inflation et elle ne crée aucun désordre. Je termine alors sur ces mots. Jamais dans l'histoire des dettes de cette ampleur n'ont été payées. Il ne vous reste que 4 cas. Payer et y consacrer toute votre existence, l'hyperinflation, la banqueroute ou la guerre. Nous ne voulons d'aucune de ces solutions. Il ne nous en reste qu'une, l'annulation.
Je vous remercie.
Et oui, c'était Bidonville de Nougaro. Vous reprenez l'émission avec Ludo, Christophe et Gilles au micro et Claude à la technique pour l'émission de mode d'emploi sur Fréquence Paris-Paris 106.3 FM. Voilà. Alors, dis-moi, Christophe, quel est le bilan du télétravail ?
Ben, tout d'abord, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit M. 30 000 euros par mois, c'est-à-dire M. Mélenchon. Mais parce que fondamentalement, il a pas tort.
On peut être de gauche et riche. Hein.
Tout à fait, mais j'ai pas dit le contraire. C'est pas une critique, hein. C'est juste ses amusements par mois. J'ai aucune critique. Il a l'air. Hein. Mais on peut avoir sa contradiction monétaire comme tout le monde. Excusez-moi pour cette private joke. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement, fondamentalement, il a raison. C'est-à-dire, on peut pas payer ses dettes, quoi. C'est clair. C'est le diagnostic est sans appel. On va faire une politique de restriction budgétaire, tout ça. Enfin, bonjour les contradictions pour le prochain gouvernement, quoi. On fait un grand plan de remotivation,
de relance,
notamment des grilles salariales par rapport pour sauver l'hôpital et tout. Et ensuite, on va demander aux gens de se serrer la ceinture. Non, mais, c'est complètement contradictoire, quoi. Je veux dire, c'est.
Et puis, moi, je crois qu'il y a des libéraux qui sont vraiment là-dedans. Hein. Philippe Aguillon, qu'on n'a pas passé toute l'interview, il pense qu'il faut faire comme l'Allemagne, mesurer les dépenses publiques quand ça va bien, pour ensuite faire une politique contracyclique, c'est-à-dire dépenser quand ça va mal.
Et puis derrière ça, il y a la notion de protectionnisme. De toute façon, les États vont y revenir du fait de leur dette qui va exploser. Ils vont devoir retrouver des taxes et des formes d'impôts pour le paiement de cette dette. Faut pas rêver, quoi. Donc moi, quand on me dit, non, vous devez pas, monsieur le président de la République, augmenter les impôts, c'est un pis-aller. Bien sûr qu'il va y avoir une augmentation des impôts, de fait. Sur ce point, je voudrais dire, parce qu'on parle beaucoup du télétravail, avant de parler du télétravail, je voudrais faire puisqu'on est dans le terme macroéconomique, une chose qu'on
macroéconomique,
a... ouais, c'est ah, ça. Oui. Non, oui, là, c'était pas une prévision, c'est juste se dire qu'il y a quand même un... Je vais rebondir sur un article là qui est passé dans le Figaro économique qu'on n'a pas parlé dans ton énoncé qui est important. C'est un monsieur qui dirige des syndics d'immeubles, de propriétés immobilières. Il a plusieurs Porsche, voitures de collection. Il gagne très 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 bien sa vie. C'est un grand patron. Seulement, il a un souci parce que les syndics ne veulent pas que les montants des loyers des bailleurs commerciaux soient reportés. C'est-à-dire qu'il y a un report, mais les entreprises... Hein, toutes les petites entreprises de proximité que vous voyez hein, dans votre rue, notamment sur Paris par exemple ou autre.
Il y aura des entreprises avec des salariés, on salarié.
Absolument, ça sera un report, mais ce n'est pas une annulation.
C'est
donc il a dit, vous allez voir à la rentrée en septembre-octobre, va avoir au bas mot 50 000 commerces ou de proximité qui vont s'en aller. Quoi. Et sachant que nous avons des entreprises qui, du fait de cette crise, sont en cessation de paiement. Donc, je vais les nommer. Hein. Il y a Camailleux.
Oui, exactement.
Il y a La Halle qui est en grande difficulté. On a notamment But qui va acheter Castorama parce que les marges de Castorama sont considérables. Bref, ça va être, dans les quelques mois qui viennent, ça risque d'être une hécatombe. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau du télétravail? Parce que là, on parle... de la vente de proximité, donc du direct, et qu'est-ce qui se passe dans le télétravail hein, puisqu'il y a... Alors, il y a eu plusieurs cas de figure au niveau du télétravail, très, 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 très particulier. Là, il y a le fait qu'il y a eu une étude qui a été réalisée par YouGov auprès de 6000 salariés qui travaillent dans des bureaux en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. C'est donc une enquête qui confirme un intérêt grandissant pour le télétravail, parce qu'en fait, le télétravail, d'abord, il faut savoir que pour 59% des Français interrogés sur cette étude, ça a été une découverte pour eux. Hein, travailler chez eux, ils n'avaient jamais eu l'occasion de faire du télétravail auparavant. Ça s'explique par le fait que le télétravail a été un moyen pour, je dirais, abaisser la compétence d'un salarié sans forcément... s'en séparer pour qu'il ait des raisons de santé, etc. Vous avez des problèmes de santé, on peut vous mettre en télétravail. Ça a surtout été fait au niveau des politiques publiques, d'où la mauvaise image du télétravail. Sauf que, alors, la plupart des Français qui ont pratiqué ça disent, ils reconnaissent qu'ils peuvent mieux se concentrer. Par contre, pour d'autres, ça a été un défi majeur parce que ceux qui ont des enfants, parle en période de confinement, ça a été l'enfer. Parce que,
bien sûr. J'ai pas en parler moi-même.
Voilà, ça a été l'enfer parce que le matin et l'après-midi, le temps chronobiologique de leur enfant, les devoirs à faire, ils s'en ont occupés. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur travail. Donc, c'est une journée qui compte double. Donc, la conséquence de ça, c'est que les habitants qui habitent dans les grandes villes, ont souffert du télétravail. de ce fait. Hein. Beaucoup ont vécu dans des petits appartements et ont été contraints de partager leur bureau avec le reste de leur famille. Et donc, c'est quoi ? Bah, c'est une véritable souffrance au travail, puisqu'il n'y a plus de séparation entre vie professionnelle
et vie privée.
Et vie privée, bien sûr. Voilà. Mmh. Alors, logiquement, certains secteurs étaient particulièrement bien préparés à ce type d'action, hein, de productivité, comme bah, le secteur informatique, hein, ce qui paraît un peu plus logique, puisque 80% des professionnels du secteur ont déclaré avoir un accès aux équipements nécessaires, hein, ce qui n'est pas du tout surprenant. Par contre, bah, dans d'autres secteurs, comme la santé, seulement un tiers des employés qui télétravaillent ont été beaucoup moins équipés, beaucoup moins préparés à ça. La fonction publique semble être également beaucoup moins adaptée à ce type de pandémie, hein, puisque la notion de télétravail, culturellement, dans la fonction publique, je le rappelle, c'est vécu comme une forme de sanction par rapport à des salariés qui sont en fin de parcours. Ça a toujours été un peu comme ça.
C'est exact.
C'est un fait culturel. C'est pas une volonté des RH.
Le problème, c'est que ça va changer apparemment, puisque certaines entreprises veulent garder le télétravail par la suite. Après, voilà.
Alors, alors là, c'est effectivement la transformation numérique, hein, qui est un gros chantier par rapport à cette expérience. C'est ce qui vient de se passer. Donc, selon une étude d'Octa, effectivement, tu as parfaitement raison, Gilles. Tu as seul un quart des répondants français qui estiment que des mesures de sécurité prises par leur employeur pour les protéger des cyberattaques sont satisfaisantes. Une minorité n'est pas du tout rassurée. C'est-à-dire que là, il y a un gros chantier par rapport à la notion de télétravail. Sachant que, apparemment, ça peut plaire effectivement à des idées, des idéologies libérales, puisque le télétravail, ça permet d'être plus flexible. On peut prendre son travail, penser, intellectualiser n'importe où. Tu peux prendre un portable et aller. Tu peux avoir un environnement de travail adapté à des nouveaux besoins collaboratifs. Alors tu te dis, mais c'est formidable. Sauf que le code du travail, lui, il est très clair. Oui. D'abord, un, je rappelle ce que c'est que le code du travail par rapport à ça, parce qu'il est très clair. C'est un, l'employeur doit te fournir ton équipement.
Oui.
Point 2, tu dois avoir une pièce adaptée et dédiée à ça.
Dans ton logement. Que tu peux déclarer aux impôts comme pièce de travail.
Absolument. Ce
qui est loin d'être le cas pour tout le
monde. Ce qui a été loin d'être le cas pour tout le monde. Okay. Et donc, ça a eu une conséquence, notamment, moi j'ai eu des aspects au niveau informatique. Pour les gens qui travaillaient dans l'informatique, etc., pour certains d'entre eux, notamment tout ce qui est cadre et tout, ça a été un enfer. Mais un enfer. Parce que là, ils ne travaillaient pas 35 heures par semaine. Hein. Ça a été un enfer. Voilà.
Très bien.
Donc, il faut absolument télétravail parce que outils numériques, etc., ok, mais il faut vraiment que ça soit remis dans un cadre, repensé, revu et.
Et que les employeurs puissent donner le maximum de choses à l'employé pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions.
Ouais, absolument. Et qu'il y ait aussi des contrôles de la part de l'inspection générale, de l'inspection du travail. Parce que
tout à fait.
Là, on est clairement, notamment dans certaines startups, tout ça, on est clairement dans de l'abus. Quoi.
Absolument.
Voilà.
Merci Christophe.
Ton avis, Ludovic, par rapport à ça.
Sur cette histoire de télétravail, moi, ce qui m'étonne, c'est en lisant tous les articles, c'est et les témoignages des gens, surtout, c'est l'augmentation de la cadence. C'est-à-dire que vous perdez un temps de déplacement, en fait, hein, donc vous êtes plus disponible. Alors, est-ce que c'est lié à l'organisation du travail par télétravail qui est beaucoup moins évidente, le fait d'avoir régulièrement des téléconférences ou le fait que travailler numérique sur ordinateur, là où il y a certaines de choses que vous pouvez faire, mettons, autrement sur votre lieu de travail, est-ce que ça prend plus de temps ? Ou est-ce que c'est que la circonstance particulière a fait qu'il y a une intensification, qu'il y a une volonté des employeurs ? Moi, je pense que là-dessus, il faudra revenir là-dessus plus tard pour savoir pourquoi, finalement, autant de gens se sont plaints d'avoir travaillé, d'avoir eu
dans tout ce qui est entreprise communication, enfin qui est lié au digital, on a bossé à des cadences infernales dans certaines boîtes.
Hein.
Infernales.
Oui, mais c'est très étonnant. Est-ce que c'est la crise du coronavirus qui a fait qu'il y a eu un effet anxiogène sur les employeurs, ou est-ce que les gens se sentent beaucoup plus intériorisent beaucoup plus la contrainte du fait qu'ils soient en autonomie, intériorisent plus la contrainte de devoir travailler parce qu'ils sont placés sous une surveillance électronique, quoi, éventuellement.
Mais n'ayant pas de transport, effectivement, l'employeur a considéré qu'ils étaient malléables à merci et donc ils pouvaient travailler de 8h du matin jusqu'à 23h le soir, quoi. C'est peut-être ça l'idée.
Oui.
Il n'y a plus le principe de la journée de travail puisqu'on est chez soi. Je ne sais pas. Enfin bon.
Enfin, en tout cas, là, ça a été très, très pénible pour un certain nombre de personnes qui n'ont pas vu de coupure entre la vie privée et la vie publique, et puis avec les enfants.
Bon. Absolument, absolument.
Alors, pour finir, merci à tous les deux. Pour finir, Ludo, peux-tu nous parler un petit peu de la grippe hongkongaise en 68, donc, ce qui est, voilà, c'est un petit peu historique, mais pourquoi pas l'histoire?
Et oui, parce que, ouais, enfin, bon, je... Voilà. Oui, effectivement, je vais parler de la grippe de Hong Kong, mais on pourrait parler aussi de la grippe asiatique qui a eu lieu 10 ans plus tôt, en 1957 et en 58, qui ressemble un peu, et celle de Hong Kong qui a eu lieu en 1968. Pourquoi en parler? C'est à cause des problèmes de confinement et du débat sur le fait est-ce qu'il faut confiner ou pas. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourtant, vous avez bien vu que M. Johnson, en Angleterre, a confiné le plus tard possible. Et puis au Brésil, évidemment, on ne confine pas. Et puis surtout aux États-Unis, il y a des gens qui manifestent pour continuer à travailler. Et donc, il y a effectivement certains indépendants en France qui disent, mais finalement, regardez bien la grippe de Hong Kong en 68. Donc, elle arrive de Chine, elle passe par Hong Kong. Et puis, on dit que c'est la première pandémie moderne, c'est que via le transport aérien, Elle passe ensuite au Vietnam, enfin à l'Asie du Sud-Est, et elle est ramenée par des Marines, ça c'est la guerre du Vietnam, aux États-Unis, où elle fait, tenez-vous bien, 50 000 morts en 3 mois.
Pas mal.
C'est pas mal, hein, quand même. Au total, sur toute la période, elle fera 1 million de morts dans le monde. Pour là, on en est à 300 000 pour le coronavirus. 400 000, bientôt 400 000 pour le coronavirus. Elle déboule en France, alors il y a plusieurs vagues, alors... En France, on dit oh, « c'est pas très grave, on isole effectivement, c'est la première souche de virale qui n'est pas H1N1, mais donc qui est une souche plus complexe, et l'Institut Pasteur l'isole, mais elle l'introduit pas dans ses vaccins, et donc quand l'épidémie arrive, et puis elle estime que finalement, il n'y aura pas trop de danger, et puis l'épidémie déboule, et ben, pendant 3 mois, elle fait... Après décompte final, 30 000 morts. Donc 17 000 au début, 40 000 de surmortalité. Les historiens disent aujourd'hui 30 000 morts, donc en 3 mois. Donc voilà, c'est actuellement plus que le coronavirus. Et ça passe comme une lettre à la poste. D'accord. Alors évidemment, on se souvient plus bien de...
Mais juste une question, Ludo, à l'époque, il n'y a pas de déconfinement.
Il n'y a pas de confinement.
Il n'y a pas de confinement.
Alors justement, c'est toute la question. C'est que quand je dis que ça passe comme une lettre à la poste, c'est qu'en fait, on ne s'en souvient plus trop. Hein, c'est qu'il n'y a pas trop d'archives. Mais surtout, alors je ne voulais pas parler, c'est la gestion de la crise qui est très, très différente. C'est que les médias n'en parlent pratiquement pas. Il y a un blackout sur la question, des journaux très... très officiel et très comme Le Monde place des entrefilets, appelle à rester raisonnable, à ne pas entraîner de psychose. Et donc le blackout fait que on sait qu'il y a eu effectivement une épidémie qu'on n'appelle pas pandémie, mais on n'a pas de statistiques réelles qui arrivent et qui permettent de piloter au niveau central la lutte contre l'épidémie. Et c'est au niveau local que se gère dans les services, dans les CHS, etc. Et en fait, c'était déjà le cas pour l'épidémie précédente. C'est-à-dire que, en réalité, on n'a pas de vaccin adapté. On n'a pas de... En 57, c'est encore plus fort. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les structures hospitalières pour accueillir les gens. Donc les gens ou meurent quand ils arrivent aux urgences, ou meurent chez eux, en fait, grande partie. Et en plus, on sort quand même d'un grave traumatisme qui date alors que on est en 68, hein, mais c'est 20 ans après, mais malgré tout la guerre de 45, on a vu d'autres, et donc on n'a pas du tout le même rapport au décès, à la mort. Il y a une espèce de fatalité de ce type d'épidémie qui n'est pas une épidémie de peste, hein, ou pas une épidémie de choléra, en fait, où là en général il y a des vraies mesures de confinement. Donc c'est pris à un niveau local, et finalement l'épidémie arrive aussi sur une population qui est plus jeune, et donc elle fait autant de morts, enfin au moins de morts, on va dire, sans confinement, en fait, hein, avec certains commerces qui ferment, etc. etc. Et donc voilà. Et donc la grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a un système hospitalier qui est beaucoup plus fonctionnel, et on prend en charge toutes les pathologies, on est capable de soigner toutes les pathologies, donc c'est beaucoup plus traumatisant. Et puis, évidemment, l'épidémie en question a été quand même beaucoup plus virulente. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait quand même eu beaucoup plus de morts.
Ah oui, certainement. Normalement, c'était près de 100 000 morts.
100 000 morts, oui.
Ça, après, voilà.
Très bien.
Et donc, voilà. Et donc, la seule chose qui était intéressante dans, ce, dans, 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 dans ça, c'est quand même les réactions de l'époque, les réactions de l'État. C'est-à-dire que l'affaire reste au niveau du ministère de la Santé. Et l'État, il n'y a pas de déclaration publique, il n'y a rien. Et il ne s'est rien passé. Et en plus, on est dans les 30 glorieuses.
Oui.
Donc, toute épidémie est un épiphénomène. Hein.
C'est ça.
Et donc, l'histoire dira si nous aurons une deuxième vague. Et puis, il y a quand même un autre précédent qui s'appelle la grippe espagnole, où là, le nombre de morts était beaucoup plus élevé. Donc,
voilà.
Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison.
Merci à tous les deux. Cette émission se termine. Je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, de l'avoir suivi. Portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonsoir.
Bonsoir.